Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir dans Soir Info de 22h30 à minuit sans aucune interruption pour commenter toute l'actualité autour de Karim Abri comme chaque soir. Bonsoir cher Karim de la rédaction de CNews, rédaction représentée évidemment aussi par Thomas Bonnet, journaliste au service politique. Vous l'avez vu à l'image, Régis Le Sommier de la partie ce soir. Bonsoir cher Régis, journaliste, expert des questions internationales notamment. Arnaud Benedetti, bonsoir à vous, bonsoir. Politologue. Éric Tegner, bonsoir, directeur bonsoir, de la rédaction de Livre Noir. Il ne manque plus qu'Alexandre Devecchio pour que la fête soit totale. Il ne saurait tarder, notre ami Alexandre Devecchio du Figaro. Beaucoup de sujets très sérieux ce soir, notamment bien sûr les suites de cette terrible agression de la petite Samara, toujours hospitalisée. On entendra de nouveau sa mère qui donne plus de motivation, en tout cas qui explique un petit peu plus encore aujourd'hui les raisons qui auraient pu pousser ses agresseurs à la passer à tabac. Mais avant d'évoquer ces différentes actualités, je voudrais juste vous mentionner cette info qui a quand même largement retenu notre attention ces dernières heures, ces dernières minutes, parce qu'on a appris ce soir que selon l'Est républicain, la brigade de recherche de Besançon a effectué des vérifications à la suite d'un témoignage d'une femme qui pensait avoir reconnu Xavier Dupont de Ligonnès. Le procureur de la République a révélé qu'un témoignage avait entraîné une série de vérifications. Le magistrat précise, une femme pense avoir vu Xavier Dupont de Ligonnès à Montferrand-le-Château, au sein de la communauté des Sœurs de Béthanie. Elle n'est pas formelle, mais pense l'avoir reconnu. La brigade de recherche de Besançon s'est penchée sur cette piste, a procédé à des auditions, sachant qu'aucune personne n'est venue corroborer ce témoignage. Le procureur indique avoir retrouvé divers objets. Un gobelet a été prélevé afin d'être analysé et des comparaisons ADN pourraient être faites. Le procureur n'exclut pas qu'il puisse s'agir, pourquoi pas, de l'ADN de Xavier Dupont de Ligonnès, mais rappelle donc qu'aucun autre témoignage n'est allé dans ce sens et que ce signalement fait suite à une séquence de promotion également, c'est vrai, du livre de la sœur du fugitif dans les médias. On ne va pas parler des heures de cela, puisqu'on est encore, bien sûr, dans la supputation, mais on est forcément dubitatif. Bonsoir Alexandre Devecchio, qui vient nous rejoindre. Tiens, je vais vous prendre à la volée en arrivant. Xavier Dupont de Ligonnès, une femme pense avoir reconnu. Et s'il était vivant ? C'est une question qu'on se pose depuis 13 ans.
Bah, c'est un roman, hein. Donc c'est fascinant. On a envie de faire des hypothèses. Comme vous, je suis dubitatif aussi. La thèse la plus courante, c'est qu'il est mort, que c'est en plus une région où on a du mal à où il y a des crevasses où on pourra ne pas avoir retrouvé le corps. Mais voyons, peut-être que le mystère va être éclairci. On pense notamment aux familles des victimes aussi dans cette affaire, surtout que la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès a des théories un peu fumeuse, qui a des verses un peu comme ça, et moi je pense aussi...
Enfin, un peu fumeuse, c'est votre avis, elle les soutient...
Je crois qu'on peut dire aussi parfois, enfin, voilà, on peut avoir un avis de journaliste,
analyser les choses... Mais c'est vrai que c'est surprenant ce qu'elle soutient dans son livre.
Et garder un peu de distance, je dis ça sans aucun mépris, mais justement je pense aux victimes, et à chaque fois qu'on a des rebondissements dans l'affaire, les victimes doivent avoir... l'espoir de savoir enfin la vérité, ça doit être terrible. Donc j'espère pour elles qu'elles sauront la vérité, mais je suis pas sûr, hélas, que soit Xavier Dupont de Ligonnès. On a dit plusieurs fois qu'on l'avait retrouvé.
Bah, on se souvient tous de l'aéroport de Glasgow. Il y a 2-3 ans.
Donc je pense que ça nous rend tous.
On avait passé la soirée dessus. C'était une soirée mémorable.
Sur les communautés monastiques, il avait été vu, soi-disant, il y avait un moine qui lui ressemblait il y a quelques années aussi. Et il y avait déjà eu une enquête dans une communauté monastique dans le sud. Voilà.
Disparu, faut-il le rappeler, tant cette affaire passionne les Français, disparu depuis le 14 avril 2011, il suscite toujours la curiosité, les fantasmes, on est très prudent, mais c'est le procureur, hein. Ça sort pas de nulle part, le procureur qui communique, qui lance un début d'enquête, en tout cas des vérifications, c'est lui qui met la pièce dans la machine ce soir, hein. c'est la justice.
Non, mais ça en dit long, hein, parce que d'ailleurs, si vous prenez le cas de cette femme qui dit qu'elle pense l'avoir reconnue, imaginez les milliers de de signalements des gens toutes les semaines, on voit
sur les réseaux sociaux. Pourquoi celui-ci est plus vérifié que les autres?
Je pense qu'il y a la séquence du moment, et effectivement, comme le disait Régis, il y en a trois des théories. Hein. D'abord, il peut être mort parce qu'il s'est suicidé, effectivement, dans ces zones escarpées. Ensuite, il a pu partir à l'étranger, je pense notamment aux États-Unis. Et enfin, il serait réfugié en France, dans un monastère, parce qu'il y a ce caractère religieux, voire sectaire. Hein. Pour revenir sur la sœur, justement, du pont de Ligonnès, moi, je trouve que ce qu'on rappelle pas, quand même, ces dernières semaines, lorsqu'on lui fait de la promotion, c'est qu'on sait très bien qu'il faisait partie d'une secte aussi, d'une secte familiale, de famille, notamment entre Nantes et la Bretagne. Moi, je suis breton, donc je connais bien. J'ai vu aussi des gens un peu qui étaient proches de ce type de famille. Et cette sœur-là était une des leaders de cette secte, en fait. Et à chaque fois qu'on la reçoit sur les plateaux de télévision, on ne le rappelle pas. Parce que, effectivement, ce soir, quand même, ce que ça nous rappelle, c'est que Dupont de Ligonnès peut être en vie pendant que ses enfants sont morts, alors qu'il y a une femme qui prétend le contraire.
Arnaud, un dernier mot et puis on va avancer parce que les éléments sont bien sûr très très minces. Mais c'est vrai que dès qu'il y a une révélation autour de l'affaire Dupont de Ligonnès, on est tout de suite de façon un peu malsaine ou pas d'ailleurs attiré. Une enquête qui n'a jamais cessé depuis 13 ans. Donc c'est normal que tout soit vérifié dès qu'il y a un signalement plus ou moins vérifiable.
Dans la chronique judiciaire, il y a quelques grandes affaires comme ça qui ont émaillé l'imaginaire collectif. Je crois que ça en fait partie. Comme c'est une disparition et qu'on n'a jamais retrouvé trace de Xavier Dupont de Ligonnès, finalement c'est un mythe aujourd'hui, Xavier Dupont de Ligonnès. C'est un mythe qui donne lieu à des interprétations, à des lectures, à des romans également et à des théories de la part de la famille. Je crois que l'hypothèse quand même la plus probable, mais évidemment on est dans l'ordre de la probabilité, c'est que je rejoins ce que disait Alexandre Devecchio, c'est qu'il ne soit plus de ce monde. Mais enfin après, je veux dire, il faut laisser faire l'enquête et le procureur fait son job en l'occurrence.
On verra ce que donne cette vérification ADN et en effet ce serait un rebondissement incroyable que cet ADN soit confondu avec celui de Xavier Dupont de Ligonnès. Affaire à suivre comme on dit. Les ministres de défense français et russes se sont parlé. Sébastien Lecornu et Sergueï Tchogou se sont entretenus au téléphone pour la première fois depuis octobre 2022. Des versions totalement divergentes ont ensuite été tenues pour communiquer sur ce qui s'était dit et puis il y a eu cette mise en garde. Régis, on va en dire un mot d'abord avec vous. Cette mise en garde du Kremlin à propos de ce terrible attentat de Moscou, pardonnez-moi, la Russie espère que les services français ne sont pas derrière l'attentat. Lisez avec moi ce qu'a dit Sergueï Tchogou donc dans son communiqué relatant l'appel avec le ministre Lecornu. Le régime de Kiev ne fait rien sans l'aval de ses superviseurs occidentaux. Nous espérons que dans ce cas, les services secrets français ne sont pas derrière cela. Emmanuel Macron a réagi aujourd'hui depuis Saint-Denis où il organisait l'inauguration plutôt de la piscine olympique. Écoutez ce qu'il dit. Il parle de propos baroques et menaçants de la part des Russes. On l'écoute et puis vous commenter.
Le ministre des Armées a fait un compte-rendu factuel, comme les ministres ont l'habitude de le faire quand ils parlent à leurs homologues. Les commentaires, pour partie, du côté russe ont été en effet baroques et menaçants. C'est ridicule, si vous voulez le dire autrement. De dire que la France pourrait être derrière, que les Ukrainiens sont derrière, tout ça n'a aucun sens, ça ne correspond pas à la réalité. Mais c'est une manipulation de l'information, ce qui fait partie de l'arsenal, si je puis dire, de la guerre tel qu'il est utilisé aujourd'hui par la Russie. Il faut en être conscient. Donc je ne veux pas ici commenter ce qui n'a vraiment aucun intérêt. Vous avez totalement raison de vous dire. On n'a absolument pas à nous justifier. D'ailleurs, nous ne nous justifions pas.
Régis Le Sommier, nouvelle menace à peine voilée de la Russie envers la France. Plus c'est gros, plus ça passe.
Oui, plus c'est gros, plus ça passe. Mais il faut dire que tout ça s'inscrit dans une séquence quand même qui dure depuis plusieurs semaines, depuis qu'Emmanuel Macron a déclaré que potentiellement la France pourrait envoyer des troupes au sol en Ukraine. Alors, il y a eu plusieurs épisodes. Emmanuel Macron a insisté. Il est revenu sur le fait qu'il pourrait en effet envoyer ses troupes. Et puis, il y a eu cet attentat donc de Crocus City Hall dans la banlieue de Moscou. Et là, il y a eu, de la part d'Emmanuel Macron, l'idée que on se rend compte que Daesh revient, que Daesh est l'ennemi numéro un planétaire et qu'on pourrait peut-être travailler ensemble pour lutter contre Daesh, notamment dans la perspective des Jeux Olympiques qui sont particulièrement menacés. Alors, Il y a eu ces échanges qui ont été aujourd'hui concrétisés quelque part avec Sébastien Lecornu qui appelle Sergueï Choïgou. Vous l'avez signalé, ça n'était pas arrivé depuis octobre 2022. Donc c'est, on peut dire, il y a une forme d'apaisement. Et puis les Russes qui remettent, je dirais, à nouveau, comment une théorie, une accusation vis-à-vis des Français. Donc finalement tout ça, c'est de la surenchère verbale et finalement concrètement, il y a pas grand-chose qui se passe.
Ça va quand même très très loin. Hein. Ça n'est rien moins qu'une suspicion d'implication dans un attentat de grande envergure, celui du 22 mars dernier.
Non, mais ce que dit Choïgou, c'est dans la théorie des Russes, c'est-à-dire que oui, certes, il y a une revendication de Daesh, et même trois revendications de Daesh autour de cet attentat, mais que les commanditaires sont à Kiev. Voilà. Et ça, partant de là, qui a la capacité pour les Russes, hein, il faut voir aussi à qui s'adresse ce type de discours. Bah, oui. Évidemment, c'est une pique envoyée aux Français, mais c'est aussi une manière pour les Russes de parler à leur propre peuple et ouais. De dire il faut voir le traumatisme qu'a fait cet attentat
ça va quand même très loin,
à Moscou et donc trouver des boucs émissaires c'est aussi une manière pour les Russes de montrer qu'ils savent des choses quoi.
François Hollande a réagi, l'ex-président de la République qui a recommandé que le gouvernement arrête d'entretenir des contacts avec la Russie. Pour lui c'est absolument inutile.
Ça partait sûrement, je veux le croire, d'une bonne intention, de dire, nous, dans la lutte contre le terrorisme islamiste, nous sommes tous solidaires. Mais vous avez vu comment la Russie instrumentalise ce genre de discussion. Et laisse même penser que ce serait la France qui aurait pu, c'est une hypothèse, soutenir les attentats qui se sont passés à Moscou. Donc aujourd'hui, ma recommandation, c'est aucun contact avec la Russie.
Arnaud Benedetti, est-ce qu'on est à l'antenne ? Oui, on est à l'antenne. Arnaud Benedetti, Emmanuel Macron était à l'initiative de cet échange entre les deux ministres dans le cadre de la lutte contre le terrorisme islamiste. Était-ce bien indispensable, comme l'explique François Hollande ? Les ennemis de mes ennemis sont-ils forcément mes amis ? Non ?
Si vous voulez, depuis février 2022, Emmanuel Macron a eu des prises de position successives dans cette guerre en Ukraine. Et là, après avoir une séquence, en effet, où il a voulu d'une certaine manière hausser le ton vis-à-vis de la Russie en laissant entendre que des troupes au sol pourraient être envoyées du côté français, voire du côté occidental. On se retrouve là depuis maintenant ce matin, c'est ce matin qu'ont eu lieu, je crois, les échanges, je veux dire, avec une sorte de petit écart par rapport à la position qui était celle de la France ces dernières semaines. J'allais dire, Emmanuel Macron fait du Macron, c'est-à-dire c'est un grand classique.
Après, on ne peut pas lui reprocher d'essayer de se rapprocher de la Russie qui lutte contre un ennemi commun également.
On est d'accord. Mais tout en disant qu'il va envoyer des troupes, donc quelque part potentiellement déclencher une guerre avec la Russie.
Voilà, il y a des contradictions. Mais qui est notre pire ennemi aujourd'hui, la Russie ou l'État islamique ?
Il y a des contradictions qui, je veux dire, apparaissent assez flagrantes. Mais bon, après, je pense qu'en effet, l'événement aujourd'hui de la journée, c'est que les deux ministres se sont parlé. Mais enfin, les Russes ont répondu à leur façon.
Enfin, si c'est se parler pour avoir un dialogue de sourds.
Qui ne semble pas, je veux dire, augurer véritablement d'une stabilité de la relation.
Allez, un ou deux commentaires rapides pour ensuite passer à cette terrible affaire qui touche la jeune Samara. Karima Brik, Éric Tegner et Alexandre, vous finirez ?
D'accord. Ben, c'est sûr qu'au début de cette guerre en Ukraine, Emmanuel Macron, qui espérait être la voix un peu médiatrice, la voix de la France, qui pourrait essayer de envisager peut-être éventuellement des solutions et tout ça, on voit que la situation a changé parce qu'on s'est enlisé aussi. Hein, ça fait plus de deux ans maintenant que cette guerre a cours, donc ça s'est complexifié. Mais je trouve qu'en ce moment, on est effectivement dans probablement la pire séquence pour la discussion, dans le sens que c'est vraiment un dialogue de sourds. On sait que Moscou a été piqué au vif par la déclaration d'Emmanuel Macron sur l'idée que peut-être on pourrait éventuellement envoyer des troupes si on n'avait vraiment pas le choix. On ne veut pas faire l'initiative, on ne fera jamais l'initiative, mais que, bref, juste l'idée de ces troupes au sol, ça a vraiment piqué au vif Moscou. Et dans cette idée de communication, je pense que la Russie aime aussi effectivement envoyer des piques, personnaliser pratiquement le conflit. On met maintenant la France, justement, dans ces discours-là. Il ne faut pas oublier plus largement quand même que la Russie est dans cette entreprise aussi de déstabilisation. Ah ben, on est dans un contexte. Il y aura des élections européennes, il y aura les élections américaines. On sait que par le passé, ça fait partie de la question de l'ingérence russe. Donc, en ce moment, c'est vraiment, il y a une communication pour le peuple russe aussi, mais on veut quand même envoyer des signaux à la France que ça n'a pas passé.
Plus que jamais, la Russie menace directement ou indirectement, d'ailleurs surtout indirectement en ce moment, la sécurité de la France. Éric Tegner.
Oui, bien sûr. Et peu importe d'ailleurs la lecture qu'on a du début du conflit de 2022, de revenir à 2014.
D'ailleurs, certains, on voit la main de la Russie sur la défaillance sur le site de Parcoursup hier soir. Enfin, on est vraiment dans cet état d'esprit actuellement.
Le problème aussi qu'on a, c'est que dans une société de la post-vérité, si aujourd'hui, justement, Vladimir Poutine peut se permettre ce type de complot, c'est parce qu'il dit, par exemple, en attendant, eux, ils nous accusaient, par exemple, d'avoir saboté Nord Stream. Et on voit qu'aujourd'hui, en fait, les enquêtes, y compris françaises, montrent que c'est l'Ukraine. Ça veut dire qu'en fait, répondre-nous par de la propagande, ça ne nous aide pas. Parce qu'il y a énormément de fois, on se rappelle, de différents médias qui ont pu dire aussi, au bout de 30 minutes après l'attentat, qu'en fait, c'était les Russes qui avaient organisé cet attentat. Donc, dans cette ère de la post-vérité, de toute façon, il y a une logique qui est en train d'imprégner. Je pense d'ailleurs que Vladimir Poutine a ce discours aussi pour une logique interne, parce qu'il a une problématique aujourd'hui avec l'islam au sein de son pays. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. S'il était le premier à lutter contre Daesh à l'époque, aujourd'hui, il veut quand même coaliser tout un monde, notamment un monde musulman qu'il ne veut pas non plus offenser. Et donc ça, il faut avoir conscience aussi de cette lecture de politique interne de son côté.
Alexandre.
Je vais voir le truc par le petit bout de la lorgnette, excusez-moi.
Chaque déclaration nous montre que nous sommes une... C'est pas un tweet, c'est un communiqué. Enfin,
non, mais parce qu'on voyait les images de François Hollande et j'étais en train de me dire que François
Les images
Hollande...
de
C'est François Hollande qui disait, faut pas discuter avec
la Russie. Avoir ce genre de conséquences derrière.
Les conseils de François Hollande, on sent qu'ils sont dictés par son aigreur, si vous voulez. Donc, il voudrait être le pire ennemi d'Emmanuel Macron. Bah. Il est parfois son meilleur ami parce qu'on a envie de soutenir spontanément Emmanuel.
Je trouve que pour une fois, c'est assez de bon sens ce que dit François Hollande.
Franchement,
quel intérêt de discuter avec les Russes si c'est pour se retrouver avec ce genre de communiqué le lendemain.
On peut pas reprocher tout et son contraire à Emmanuel Macron. Moi, je suis sur une ligne depuis le début. Il faut malgré tout tout tenter pour faire jouer la diplomatie. Et donc autant je trouvais les troupes, l'idée des troupes ridicule et pas crédible, autant là je ne peux pas lui reprocher d'essayer si vous voulez. Je trouve quand même la séquence montre les limites du système poutinien. C'est-à-dire que Vladimir Poutine prétend qu'il est le leader du Sud global contre l'Occident. Et on voit bien que le concept de Sud global est un concept qui ne fonctionne pas et qu'à l'intérieur du Sud global, eh bien, même la Russie est attaquée par les islamistes. Et peut-être que Vladimir Poutine ferait mieux de s'intéresser à l'unité de son pays parce qu'il a des républiques
islamiques. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est comment marginaliser l'Occident et rester dans sa logique impérialiste et cette matrice dont il ne souhaite pas sortir.
Peut-être qu'il s'est trompé de combat. Je veux bien que l'Occident ait des torts, mais peut-être que l'ennemi existentiel de la Russie, c'est justement plus l'islamisme que l'Occident.
Si on a compris chose de Vladimir Poutine, c'est que c'est pas le genre à revenir en arrière.
Peut-être juste revenir sur la communication quand même de la France, c'est peut-être aussi, même si en ce moment ça semble être un très très mauvais moment pour avoir des discussions, c'est sûr que si on veut aller éventuellement dans une logique peut-être de solution, il va falloir probablement rétablir un certain contact.
Quand on rétablit un contact, derrière on se fait menacer en disant que les renseignements français sont impliqués dans
discussion existe toujours
de manière des escalades aussi probablement.
C'est ce qu'a dit Anthony Blinken hier également. Mm-hmm. Il a dit que au G20 que la Russie n'était pas exclue ad vitam et que ça pouvait
Si les relations se réchauffent, personne ne s'en plaindra si on peut éviter
un État américain qui tend la main quelque part aux Russes.
Notre autre sujet majeur de la soirée, Nicole Belloubet l'apprend aujourd'hui une enquête administrative après la sauvage agression dont la jeune Samara, 14 ans, a été victime devant son collège de Montpellier avant-hier. L'adolescente, pour mémoire, a été agressée par 3 autres mineurs, dont au moins une est scolarisée dans le même établissement. Elle est sortie du coma hier, on vous le disait, mais reste dans un état de très grande fragilité. Son tort, et ce sont les nouveaux témoignages de sa mère qui nous l'apprennent aujourd'hui, son tort, selon sa maman, qui témoigne notamment sur CNews. S'être habillée à l'européenne. Écoutez.
La jeune fille qui a été interpellée avait créé un compte sur Samara, une photo d'elle avec un appel au viol. À partir de là, cette élève a été sanctionnée et ça a continué. Voilà, cette jeune fille, elle est voilée. Ma fille, comme vous disiez, elle s'habille à l'européenne. Je vois que ce motif, en fait, qui qui justifie cet acharnement envers ma fille, parce qu'ils ont ni le même cercle d'amis, elle est plus grande qu'elle. Il y avait aucun différent entre eux, et voilà, c'était physique. Elle aimait pas ma fille, elle pouvait pas la voir en fait. Donc elle s'acharnait constamment sur elle. Voilà, des crachats, des insultes. On la traitait de mécréante. On lui disait que voilà. Et au bout d'un moment, ma fille, elle craquait. Elle rentrait à la maison, elle me dit maman. Ben voilà, bon, je la voyais d'une teinture à une autre. Elle changeait. Elle avait voulu faire une couleur rouge à ses cheveux. Au bout d'une semaine, au bout de tellement d'insultes, elle en arrivait à devoir se reteindre les cheveux. Elle me dit maman, c'est pas possible. On m'insulte, ben je change. Ben elle changeait pour les autres, mais bon, moi je comprends pas. Je suis de la même communauté que cette jeune fille. Je suis de confession musulmane. Ma fille pareil, et on comprend pas cette version de la religion que ces personnes ont. Je suis choquée, parce que si c'est la raison de l'acharnement de ma fille, c'est très très grave. C'est très très grave, parce que moi j'ai toujours été ma fille, je la laisse s'exprimer malgré que je surveille. Je suis une maman, mais bon, elle grandit, elle fait ses propres choix, et c'est dommage qu'une enfant elle se retrouve à devoir se mettre dans le moule pour d'autres personnes. Voilà.
Et on va entendre beaucoup d'extraits de cette maman qui s'est longuement confiée tout à l'heure, ce matin, plutôt chez Pascal Praud. Elle était aussi chez nos amis d'Europe 1. Je voudrais juste, avant qu'on entame les discussions, entendre cet autre extrait, cette fois chez nos amis d'Europe 1, un tout petit peu plus tôt, parce que là, elle détaille avec des mots encore plus forts vraiment ce qui est arrivé avec cette jeune fille harcelée, moquée et agressée par ses camarades de collège.
J'ai parlé avec plusieurs copines de Samara qui me disent madame, Samara elle est coquette, Samara elle s'arrange, Samara elle se maquille un peu, et puis cette jeune fille est voilée. Je vois pas le chose, ma fille aussi est pratiquante,
on l'a traité de couffard.
Voilà, on l'a traité de couffard.
Ça
on
veut
l'a
dire quoi, ça
couffard, ça veut dire mécréante, c'est une traduction de mécréante. Voilà, ma fille elle est traitée de mécréante, alors que voilà, elle est saine d'esprit, elle n'a pas, ils ont peut-être une version de la, ils ont une version peut-être de la religion qui est différente de la nôtre, mais
votre fille s'habille
voilà, elle s'habille à l'européenne, enfin elle est voilà, elle est pas voilée, exemple, ma fille voilà avait mis une couleur rouge sur ses cheveux. Au bout d'une semaine elle m'a dit maman, c'est plus possible, toute la journée c'est des rires, c'est des moqueries, des insultes, voilà, c'est ça, c'est des insultes, oui, c'est des insultes en arabe, des kahba, ça veut dire pute, voilà, ça veut dire pute. Elle est traitée de pute à longueur de journée. Elle a pris la décision au bout de la fin de la semaine de se reteindre les cheveux en marron, alors qu'elle adorait la couleur rouge, mais elle, c'était plus vivable en fait. C'était quelque chose qui choquait, alors que pour autant ça choque pas. Moi ça me choque pas. Je suis sa maman, elle est peut-être jeune fille, mais voilà, elle a le droit de s'exprimer, mais je sais pas si c'est les raisons, mais je tends à aller vers cette
de lourds soupçons.
Voilà, de lourds soupçons de ça, parce qu'il n'y a pas d'autre raison. Cette élève, elle est en troisième, ma fille, elle est en quatrième, elle est plus jeune qu'elle, ils n'ont pas du tout le même cercle d'amis. Enfin, il y a rien qui les relie, en fait, mis à part, peut-être cette jalousie. Voilà, c'est ça.
Éric Tegner, le témoignage de cette maman, il est édifiant. Je voulais vraiment qu'on ait ces deux gros extraits pour vraiment comprendre ce qu'elle a sur le cœur et ce qu'elle raconte d'une France d'aujourd'hui.
Déjà, tout mon soutien à Siba, donc la mère de Samara. Pourquoi ? Parce qu'on dit souvent qu'il faut qu'à un moment donné, lorsqu'il y a ce type d'acte, eh bien, les musulmans modérés aussi expriment une voix, leur voix. Et c'est finalement très rare qu'ils le fassent. On sait que cette mère de famille, en faisant cela, en venant sur vos différents plateaux de télévision, prend un risque elle-même. Je pense qu'elle doit être insultée, elle doit vivre ce genre de choses, et à mon avis, on en parlera encore dans les jours à venir. Donc c'est important. Le deuxième, pour moi, indicateur, c'est qu'il y a effectivement aujourd'hui des musulmans modérés en France. Il y en a beaucoup.
D'ailleurs, majorité... je me permets de préciser que cette dame était, et on entendra aussi un extrait tout à l'heure chez Cyril Hanouna sur C8, et elle a voulu apporter à la fin de son entretien un message en disant « Je ne suis pas là pour stigmatiser ma religion, ce qui est aussi ma religion. Je parle de certains extrémistes qui pourrissent notre vie et qui pourrissent notre notre image. Il ne s'agit pas de faire le jeu des extrêmes qui voudraient mettre tous les musulmans dans le même sac. Et je me permets de relayer ce qu'elle a dit parce que c'est important aussi de le dire.
Oui, parce qu'elle n'est pas dans une démarche politique. Hein. Donc ça, là-dessus,
oui, elle est contre toute récupération.
La démarche, c'est assez logique de sa part parce qu'elle est d'abord touchée par sa fille quand même qui est dans le coma. Donc ça, c'est important de le souligner. Je pense qu'en revanche, ça montre une chose. C'est que s'il y a une majorité de musulmans modérés aujourd'hui, on est dans une tendance où on se retrouve avec de moins en moins de musulmans modérés et de plus en plus de radicalisation. Ça, c'est le premier enseignement. Et le deuxième, c'est que c'est de plus en plus jeune. Aujourd'hui, on le voit très bien, on parle de harcèlement scolaire depuis des mois. À chaque fois, Gabriel Attal s'est mobilisé sur le sujet. Est-ce qu'à l'époque, il y a un seul député qui disait que dans la question du harcèlement scolaire, il y avait la question justement de l'islamisme ? Absolument pas. Et aujourd'hui, on en parle pourquoi ? Parce qu'il y a une jeune fille qui est agressée et qui tombe dans le coma. Et ça, c'est le grand problème aujourd'hui en France. C'est que tant qu'on n'est pas une victime, en fait, on nous dit que ce sont des lubies. On nous dit finalement c'est ce sentiment d'insécurité et il faut se retrouver dans le coma pour le faire. Et ça, c'est absolument scandaleux.
J'entendais parler un intervenant aujourd'hui de police de la charia en culotte courte pour décrire ces jeunes,
ils sont
ces jeunes radicalisés qui veulent répandre également leurs pratiques aux autres musulmans. Elle pratique Karim Abrik sa religion de manière modérée. Elle est traitée, et pardon de le dire, mais il faut appeler un chat un chat, elle est traitée de pute à longueur de journée parce qu'elle ne s'habille pas comme certains l'exigent.
Je trouve ça absolument révoltant, sincèrement, parce que je vois, moi, au fond, qu'est-ce que je vois? Je vois une jeune femme qui essaie de vivre sa vie. C'est une jeune femme qui grandit en ce moment. Elle veut s'émanciper, elle veut vivre librement, elle veut faire ses propres choix. Et ce qu'on comprend pour l'instant à travers les témoignages de sa mère, notamment, ben, pour ça, on veut la punir, on veut l'humilier, on veut lui dire que c'est une mauvaise femme, une mauvaise fille. On parle qu'elle serait une mécréante. Tout ça, pourquoi? Parce que c'est une jeune femme de confession musulmane qui aime vivre, elle dit, sa mère, elle vit à l'européenne, elle s'habille à l'européenne, tout ça, et c'est normal, je pense qu'elle peut bien s'habiller à l'européenne si elle le souhaite. Mais tout ça pour dire, donc, cette pression, c'est ça qui est absolument troublant, de voir qu'il y a des personnes comme ça qui peuvent se permettre et qui disent non, ta façon de vivre ta religion, ta façon de vivre comme femme, eh bien, tu ne peux pas. On veut, donc, oui, il y a quelque chose de profondément sexiste, de violent. On peut élargir le débat un peu plus large, c'est-à-dire qu'on verra, à l'issue de l'enquête, est-ce qu'on parle d'une forme de communautarisme, une forme d'entrisme religieux? Est-ce qu'on
c'est
parle
de l'extrémisme.
De l'extrémisme, ça, tout à fait. Donc, mais tout ça, nonobstant, je pense qu'il y a déjà des faits qui parlent. Et de voir cette jeune fille qui veut vivre sa vie, qui veut faire ses choix et être punie pour ça. Et je veux juste rappeler aussi une chose, en raison justement de la façon dont elle vivait, une jeune fille finalement, tout simplement.
Une jeune fille comme les autres jeunes filles de France devraient l'être.
Qui voulait se colorer les cheveux ou qui veut simplement s'habiller comme elle le souhaite.
Ou se maquiller parce qu'elle a envie de...
Quand on est une femme, est-ce qu'on peut s'habiller comme on le souhaite, justement? Ben, manifestement, ça semble être un problème.
Pas partout.
Et surtout, il y avait eu déjà des signes avant. Quoi? Il y avait eu un appel au viol. Sa mère nous dit qu'elle avait, dans des publications sur les réseaux sociaux, sa fille avait été ciblée par un appel au viol.
Ouais.
Finalement, on lui dit, c'est ça, c'est le champ libre, parce que tu es comme tu es. C'est absolument scandaleux, révoltant. Et cette jeune fille, pour l'instant, on dit qu'elle est sortie, je pense, du coma. Mais je veux dire, elle aurait pu y passer. Elle a été passée à tabac. On parle de...
Ah, mais elle est encore à l'hôpital, très affaiblie.
Exactement.
Elle a été plongée dans un coma, dont heureusement elle est sortie. Mais on peut imaginer qu'elle aura des séquelles physiques et ou psychologiques tout au long de sa vie. On entendra sa mère qui parle de son petit frère qui est malade aussi et qui vit ça très, très péniblement. Et c'est toute une famille, évidemment, qui est dans une peur et un sentiment de tristesse
France,
absolue.
Aujourd'hui, vous pouvez être une jeune femme et vous pouvez être passée à tabac. Parce que, parce que c'est quoi? Parce que vous portez pas le voile? Parce que vous vous habillez... Donc moi, je suis extrêmement...
Islam modéré, progressiste, contre islam extrémiste. Pour eux, l'infériorisation des femmes est une valeur religieuse. Et certains vont passer donc leur temps à fliquer les autres. Je voudrais juste vous soumettre ce tweet de Sandrine Rousseau, que j'ai trouvé absolument honteux aujourd'hui. Pour pas changer, j'ai envie de dire. Samara a été violemment agressée. Cette agression est absolument totalement... sexiste. Samara et toutes les femmes ont le droit de s'habiller comme elles le souhaitent partout.
Oui, c'est l'évitement classique.
C'est Sandrine Rousseau.
Moi, je voulais rajouter sur l'histoire de Samara, c'est que il y a quelques années, on se souvient tous de l'histoire de Mila, qui elle avait tenu des propos, faut le reconnaître, comment hostiles vis-à-vis de l'islam, et qui avait été obligée de partir. On l'attendait, on la menaçait de mort, elle pouvait être tuée, elle avait changé d'identité. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que quelques années plus tard, c'est pas de tenir des propos, c'est d'avoir une attitude qui est jugée contraire à. On l'a traitée de mécréante. Pourquoi ? Parce qu'elle a voulu se mettre les cheveux rouges. Elle a été obligée de changer. Il y a eu toute une pression. Et c'est
en
là
même temps, il y a rien de nouveau. Et c'est pour ça que je vous ai montré le tweet de Sandrine Rousseau. C'est parce qu'il y a rien de nouveau. Finalement, si tout cela est avéré, ce sont des choses que l'on connaît dans notre pays. Cette pression sur certains musulmans plus modérés que d'autres. Mais on en parle quand d'autres passe tout sous silence. Et le fait d'uniquement parler de sexisme je trouve que c'est une façon, encore une fois, de faire du pas de vague, de mettre sous silence la réalité des choses.
Mais ce qui est très grave, moi, je trouve, c'est que cet entrisme, c'est vraiment une entreprise, frériste, c'est-à-dire d'imposition d'un dogme au sein même des écoles. C'est pas simplement une personne qui est jugée hors de... Non, c'est tu es musulmane, tu dois te comporter de cette telle façon, tu dois avoir tel accoutrement... Et si tu ne le fais pas, eh bien, tu es exclu, tu es battu, tu te retrouves dans le coma quand même. Là, on est, on se rapproche de certaines pratiques qu'on trouve en Afghanistan, quoi, vraiment.
Un ou deux commentaires avant le rappel de l'actu de 23h et on va évidemment entendre beaucoup d'autres extraits de cette maman et continuer la discussion ensuite.
Je voulais revenir au tweet de Sandrine
Thomas Rousseau. Et Alexandre, rapidement.
Il y a une somme de renoncement et un comportement absolument détestable de cette extrême gauche qui passe sa vie à nous parler de racisme systémique, de patriarcat, d'assignation à résidence. Et qui fait preuve d'une cécité totale lorsqu'il s'agit de sujets d'islamisme radical, et dont on voit que les victimes aussi sont des musulmans modérés. Vous avez raison de faire la distinction. Cette distinction, elle n'existe pas pour l'extrême gauche, qui, à des fins électorales certainement, décide de mettre tout le monde dans le même sac. Et on voit que ça a des effets désastreux auprès des jeunes filles qui veulent simplement vivre leur vie normalement, s'habiller comme elles le souhaitent. Et la réaction de Sandrine Rousseau, qui ne prononce pas le mot islam, qui ne prononce pas l'aspect religieux du tout.
En même temps, est-ce que vous attendiez autre chose ?
Désastreux. Non, mais c'est terrible.
Alexandre a une petite minute et on poursuit la conversation ensuite.
Non, peut-être ce qui n'a pas été dit. Moi, j'ai ce qui me frappait en l'écoutant, c'est la pancarte collège ou lycée Arthur Rimbaud. Et je me disais que dans ce pays, le pays d'Arthur Rimbaud, quoi, pour être symbole de la liberté... On en était arrivé là et franchement c'est vertigineux.
Je suis pas sûr que les agresseurs de cette jeune fille connaissent vraiment.
Bah, c'est bien un problème. Ils ne connaissent pas Arthur Rimbaud. Mais comment ce pays qui a produit Arthur Rimbaud en est arrivé là? On a reculé de plusieurs siècles et encore. Je pense qu'au Moyen Âge les femmes étaient mieux traitées qu'elles le sont aujourd'hui dans certains quartiers en France. Donc là il y a Sandrine Rousseau et l'archétype de la traîtresse. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une femme qui trahit sa nation et qui trahit son peuple. Mais je crois que malheureusement, beaucoup de nos responsables.
J'ai entendu dire aujourd'hui que CNews était un relais de fake news. Ouais. J'aimerais bien qu'elle me parle de fake news. En revanche, est un relais d'un renoncement absolument total. Elle l'a montré factuellement.
Sandrine Rousseau, qui est un exemple énorme, si vous voulez, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de lâcheté, de renoncement de nos responsables politiques pour en arriver là. Alors, une fois que j'ai dit ça, effectivement, la situation est catastrophique, mais il faut quand même le dire. C'est inimaginable que ce pays soit dans cet état-là, aujourd'hui soumis à cette idéologie barbare, parce que c'est une soumission à une idéologie barbare qui n'avait pas lieu d'être dans ce pays et qui a été importée.
On marque la pause, le temps du point actu pour une petite minute avec Maureen Vidal. Et puis je vous le disais, beaucoup d'extraits à entendre, tous aussi poignants les uns que les autres, de cette maman qui a longuement témoigné sur notre antenne ce matin. Maureen Vidal.
Alain Delon placé sous curatelle renforcée par le juge des contentieux de la protection de Montargis dans le Loiret. L'acteur de 88 ans était placé sous le régime de la sauvegarde judiciaire depuis janvier avec la désignation d'un mandataire judiciaire pour son suivi médical. La curatelle renforcée prévoit, elle, que le curateur procède à la gestion du compte bancaire et règle ses dépenses. Dans un entretien téléphonique, le président américain Joe Biden a pressé le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de conclure sans délai un accord pour un cessez-le-feu immédiat. Washington réclame des actions israéliennes dans les heures et jours qui viennent. Joe Biden a prévenu Israël. La poursuite du soutien des États-Unis à son opération à Gaza dépendra de décisions concrètes pour protéger les civils. Enfin, Jonas Vingegaard souffre d'une fracture de la clavicule et de plusieurs côtes après une terrifiante chute autour du Pays Basque. Âgé de 27 ans, il a été conduit à l'hôpital après avoir passé de longues minutes en position latérale de sécurité sur le bas-côté. Au total, 8 coureurs ont été accidentés à 3 mois du Tour de France.
Merci beaucoup Maureen. Retour donc sur cette terrible affaire et cette jeune fille de 14 ans toujours hospitalisée. Sa maman qui a longuement parlé sur notre antenne aujourd'hui et a relaté notamment les conséquences, je vous le disais, sur sa famille, sur son petit garçon, lui malade et qui vit terriblement ces dernières heures.
Un deuxième enfant qui est malade, qui atteint la maladie de Crohn depuis plus de 3 jours, c'est affreux. Il est enfermé à la maison, il tremble, il est dans un état, il est vraiment pas bien. Il est scolarisé dans le même collège que Samara, en quatrième aussi. Et il est plus retourné à l'école depuis. Il est plus retourné à l'école. Il a peur. Il me dit, maman, ma sœur. Il a peur. Il craint dès qu'il entend un bruit. Il sursaute. C'est affreux. En fait, ils sont en train de détruire ma famille. En fait, ils sont en train de détruire ma famille avec ce qu'ils ont fait. Ils sont en train de détruire ma famille.
Arnaud Benedetti, encore une fois, on est dans cette inversion des valeurs où c'est toute une famille qui est impactée, des victimes qui vivent dans la peur.
Bah, d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que l'école n'est plus un sanctuaire et que l'école est devenue un terrain de lutte et la frontière sur laquelle un certain nombre de groupes séparatistes, islamistes notamment, mènent un combat à la République et à la France. En plus, ce qui est très intéressant, on l'a dit, bon, il y a aujourd'hui une pression qui s'exerce sur la communauté musulmane et notamment ceux qui veulent pratiquer en paix leur religion, ce qui est tout à fait, j'allais dire légitime en l'occurrence, mais je crois comprendre aussi que cette famille est une famille qui est en France depuis très longtemps. C'est une famille de harkis, c'est-à-dire des gens qui sont rentrés en 1962, vraisemblablement, d'Algérie. Donc c'est des gens qui sont parfaitement intégrés, qui sont parfaitement assimilés, qui en effet...
Et on l'entend dans le discours de cette maman, de la grand-mère hier.
On l'entend dans le discours de cette maman. Donc ça signifie...
C'est parce qu'ils sont assimilés qu'ils sont traités comme des parias.
J'allais y venir. C'est qu'en effet, ceux qui sont assimilés sont aujourd'hui l'objet, en tout cas, c'est l'exemple, me semble-t-il, de cette triste et dramatique affaire, sont les cibles de ceux qui, aujourd'hui, refusent l'assimilation. Et ensuite, moi, ce qui me frappe, et c'est le dernier point, et je rejoins là aussi ce que disait Alexandre Devecchio, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on a le sentiment que, encore une fois, on va avoir une parole de fermeté de l'État, et on ne peut attendre qu'une parole de fermeté de l'État. Madame Belloubet nous dit qu'elle va lancer une mission flash.
Je vais y venir tout de suite après vous.
Faire la lumière sur cette affaire. Mais vous savez, c'est un peu comme le barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. C'est que les mots ne sont plus qu'un barrage et que, malheureusement, après chaque séquence où l'État réaffirme sa détermination, ces affaires reviennent. Comme si, finalement, à mesure que l'on communiquait toujours plus fermement, finalement, l'action...
Ah, vous avez vu la dernière phrase, mon bras ne tremblera pas. Quelle mise en scène. Donnez-nous des actes. La ministre de l'Éducation nationale a annoncé donc lancer cette enquête administrative après l'agression. Elle souhaite tout savoir sur ce qui s'est passé durant les semaines et les mois qui ont précédé. On peut faire le parallèle, bien sûr, avec ce qui s'est passé au lycée Maurice Ravel entre ce que dit le gouvernement et ce qu'on voit sur le terrain. Il y a un fossé insupportable. Madame Belloubet ne devrait pas être sur les plateaux de télévision pour dire que son bras ne va pas trembler. Elle devrait être à Montpellier depuis hier soir pour prouver qu'elle prend la mesure de la situation. Et elle est en train de nous montrer le contraire. Je ne sais pas si Thomas veut réagir sur cette séquence politique, mais c'est...
On a quelques interrogations, pour ne pas dire plus, sur la capacité de Nicole Belloubet à pleinement incarner ce ministère de l'Éducation nationale.
Gabriel Attal, il serait à Montpellier, lui ?
Évidemment. Et d'ailleurs, c'est ce que me disent certains...
C'est ce que Patrick Vignal disait à l'antenne hier, député de l'Hérault.
Après, le ministère de l'Éducation nationale, on le voit, il y a tellement de soucis, c'est un ministère de crise permanent. On parlait même d'ambiance orange mécanique, on en parlait hier. Est-ce que Nicole Belloubet est parfaitement taillée pour incarner la réponse ferme de l'État en matière d'autorité, d'atteinte à la laïcité, etc. La réponse est un peu dans la question.
Emmanuel Macron, qui a réagi là encore depuis Saint-Denis aujourd'hui. Éric, vous reprenez.
On veut vraiment avoir un mot de solidarité pour cette jeune fille, pour sa famille.
il n'y a rien qui justifie qu'il serait faire accepter le fait qu'une jeune fille, une adolescente, est ainsi agressée par plusieurs jeunes de son âge. Après, j'ai eu des premiers retours de la part du préfet et du rectorat. Nous sommes en train de consolider les informations. Il y a aussi un travail de la justice qui est en cours. Donc je serai à ce stade très prudent. Je sais aussi que beaucoup de diligences ont été prises par la communauté pédagogique. Et je pense qu'il est important dans ce moment-là d'abord d'être aux côtés de cette jeune fille, de sa famille, de lui apporter tout notre soutien, d'être extrêmement ferme à l'égard des auteurs de ces faits, ce qui a été immédiatement fait par la justice et la police, et d'établir la vérité pleine et entière. Et donc je souhaite qu'elle s'établisse dans la sérénité et qu'on en tire ensuite toutes les conséquences.
On réagit toujours après coup. Je ne vais pas manquer de respect au chef de l'État en disant bla, 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 mais on est démunis, on est désarmés, on est faibles. Cette affaire est l'illustration d'une énième défaite de l'État.
Non, mais surtout que là, on est dans un monde de fous. C'est même pas du bla, bla, bla. On n'en est même pas au stade où il se contente de dire des paroles. Là, il est en train de dire je n'ai pas les éléments. Il a besoin de quoi d'autre ? Il y a une jeune fille qui se fait traiter de mécréante.
Mais c'est vrai qu'on peut être un peu prudent en disant ce soir que nous n'avons pas les éléments des gardes à vue et nous n'avons que la version de la maman. Donc cette prudence de la part du chef de l'État sur les faits purs, on peut peut-être la comprendre.
On l'a vu aller plus vite sur d'autres affaires. À chaque fois qu'il a ce type de problème, d'un coup, c'est la prudence, la justice, etc. Et quand la justice tombe, on est déjà en dehors du champ médiatique.
De là à dire qu'il ne veut pas fâcher un certain électorat ?
Mais bien sûr, parce qu'il refuse de faire le lien entre immigration, islamisme et ultra-violence. Parce que c'est ce genre de cas dans lequel on est aujourd'hui. Un problème d'intégration de l'islamisme qui pousse quand même une jeune femme à attaquer une autre jeune femme. Tout à l'heure, Alexandre parlait effectivement de cette difficulté aujourd'hui des jeunes femmes, justement musulmanes, à pouvoir pratiquer tout en étant plutôt modernes. Aujourd'hui, on est dans un cas de figure où ce ne sont pas des hommes qui attaquent des jeunes filles parce qu'elles ne portent pas le voile. Ce sont des jeunes femmes qui décident. C'est pour ça que c'est pas une question de féminisme. Elles considèrent que c'est leur liberté, justement, d'imposer cela à l'autre. On est fondamentalement sur un problème d'islamisme. Et lorsque une Sandrine Rousseau a ce type de propos, c'est absolument scandaleux. Ça représente comment les écologistes et les féministes aujourd'hui sont main dans la main avec les islamistes. On le voit d'ailleurs depuis le 7 octobre dans toutes les manifestations.
La logique, et c'est ça, c'est intéressant que vous disiez ça, parce que ce que je me suis dit, c'est que la logique qui pousse Emmanuel Macron à être aussi prudent, c'est la même logique qui l'a poussé à ne pas aller à la manifestation contre l'antisémitisme au mois de novembre de l'année dernière.
Non, mais c'est globalement pour le gouvernement, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que cette affaire-là, bon, elle éclate aujourd'hui, cette semaine. Mais la semaine précédente, c'était l'histoire du professeur, donc qui était la même engeance quelque part.
C'est ce que je disais.
Et à chaque fois, on a un islamisme, ce que disait Eric Evray, qui est rampant et qui de plus en plus tente à s'imposer. C'est-à-dire que il y a eu des tracts qui ont pu être distribués, il y avait des associations, des choses, etc. Mais là, il y a véritablement les prémices d'une imposition, une vision de la charia, finalement, à l'école. Et c'est effrayant, quand même, de voir, en effet, comment ce que disait Arnaud Benedetti, c'est-à-dire que si cette famille était une famille de harkis, donc élevée dans la République française, ayant eu cette fidélité pour la France à l'époque de l'Algérie...
Mais musulmane, la maman a précisé ce soir que cette jeune fille fait le ramadan, qu'elle prie 5 fois par jour, qu'elle est assez pieuse dans sa foi, mais
ça veut dire
un comportement occidental.
Bien sûr, mais ça veut dire qu'il existe des noyaux, des cellules d'individus qui aujourd'hui veulent imposer un ordre islamique qui précis.
Voilà. Bout d'entretien intéressant chez Cyril Hanouna tout à l'heure sur C8. La maman de Samara, encore une fois, qui évoque la maman de la harceleuse qu'elle a croisée à plusieurs reprises. Écoutez.
La maman, elle m'a croisée à 2 reprises devant le collège et devant le commissariat. Elle m'a narguée du regard. Elle est venue au collège, elle a eu un culot de dire « Ma fille, vous êtes en train de la traumatiser, elle va tomber malade. » Et ma fille, elle est où là ? Elle est où ? Elle est en réanimation ? Elle est dans le coma, ma fille.
Elle a eu le culot de dire ça ?
Elle a eu le culot. Ta fille, elle est coupable. Elle t'a raconté, tu le sais. Et en fait, tu continues à persister que ta fille... et cette maman, elle me dit quoi ? Elle me dit... C'est pour ça que j'en reviens. Je ne parle pas d'une communauté. Je parle de cette famille-là. Je parle de cet enfant-là. Et je parle de cette maman-là. Cette maman qui est voilée aussi et qui me dit « Mais c'est le ramadan. Mais c'est le ramadan. Mais le ramadan. Tout le monde fait le ramadan. Mais toi, tu fais le ramadan et tu acceptes que ta fille, elle a envoyé une enfant de 13 ans dans le coma. C'est ça ? C'est ça ? Tu acceptes ça ?»
C'est près de 2 ans de harcèlement. On se demande comment on peut s'acharner sur quelqu'un pendant aussi longtemps sans que l'institution, sans que les adultes ne puissent agir. Mais de ce que dit cette maman, encore une fois, puisque nous n'avons que la voix de la maman de cette jeune fille hospitalisée, eh bien, il y a une forme de on assume totalement le comportement de cette jeune fille dans cette famille.
Arnaud Benedetti a soulevé un élément, moi, que je ne connaissais pas et qui est effectivement très intéressant. C'est le fait que ce soit une famille de harkis. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le mot harki est devenu une insulte dans les banlieues, justement.
Harki, c'est un traître. Hein.
C'est un traître, exactement. Quand on est réellement harki, en plus, il y a une haine. Il y a une haine d'une partie des musulmans contre les harkis.
Mais je ne suis même pas sûr que les gamines qui la harcèlent savent ça.
Oui, peut-être que la famille le sait.
C'est son style de vie, c'est son style vestimentaire.
Peut-être que la famille le sait, puisque la mère voilée, apparemment, nargue l'autre mère. Donc il y a aussi cet élément là qui est aussi un élément culturel qui est quand même intéressant. Je reviens d'un mot sur Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a sans doute peut-être une vision électorale, mais j'en suis même pas sûr. Ce qui est plus effrayant, c'est que je crois qu'il y a une très grande impuissance. On en est arrivé à un point où ils ne savent pas quoi faire. Et d'ailleurs, à court terme, je pense qu'il n'y a pas de la réponse immédiate est très difficile. On sait bien qu'il faut refonder la justice, qu'il faut refonder complètement la politique d'immigration.
Il faut faire surtout adhérer notre jeunesse et toute la population à un récit national et un amour de ce pays.
D'accord, je parlais d'Arthur Rimbaud tout à l'heure. Effectivement, ça fait partie du travail d'intégrer ceux qui sont là.
C'est ça la priorité.
Et qui ne pourront pas repartir. C'est peut-être la priorité, mais si vous continuez à faire venir des gens qui ont une autre culture et qui ont une haine, vous ne pourrez jamais intégrer parce qu'il y aura une majorité qui se constituera, qui sera haineuse. Donc je maintiens que la première urgence, c'est d'arrêter les flux migratoires, mais ensuite, effectivement, il faut faire un travail d'intégration. Mais ce qui frappe, c'est le décalage, justement, entre les mots des hommes politiques en général et la réalité. Et je rappelle quand même qu'on est dans un pays, pour vous dire la folie dans laquelle on est, qui a voté à l'Assemblée nationale une loi contre les discriminations capillaires il y a quelques jours. Voyez le décalage, la violence orange mécanique, d'ailleurs contre une fille qui se peint les cheveux en rouge, donc là il y a une discrimination capillaire, mais en fait la discrimination, elle est contre son mode de vie occidental. Donc le décalage entre la réalité qu'on vit tous...
Elle était agressée, harcelée avant de se teindre les cheveux.
Et les réponses politiques ridicules et insignifiante qu'on a à l'Assemblée.
Les réactions politiques, c'est vrai qu'elles sont pas très courageuses. Tiens, Olivier Faure, peut-être exceptionnellement, a été peut-être celui qui a pris le plus de risques. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses ou civiques. Notre devoir collectif est de protéger tous nos concitoyens des obscurantistes et de s'en prennent à nos libertés. L'agression de Samara est une honte. Solidarité avec Samara et sa famille. C'est un tweet très...
Il dit obscurantiste.
C'est vrai qu'il manque peut-être le mot islamisme, mais venant du premier secrétaire du PS, c'est quand même un bel effort, je trouve.
Il faut se souvenir qu'après 2015, on a eu du mal à désigner les islamistes.
Et en même temps, je vous dis, pour l'instant, on a que la version de la maman, donc d'une certaine façon, on peut comprendre une forme de prudence quand même.
Je voudrais dire deux mots sur Emmanuel Macron. Moi, sa réaction, je la trouve plutôt quand même à la hauteur. On ne peut pas attendre d'un chef de l'État qu'il dise autre chose que ce qu'il a dit. L'occurrence. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a jamais... Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a jamais calculé, comme disent les jeunes, la question de l'immigration dans son logiciel politique. Et il faut se souvenir qu'en 2017, quand il était candidat à la présidence de la République, ce sujet était un non-sujet pour lui. Et qu'il a été rattrapé par la réalité et qu'aujourd'hui, si vous voulez, il a d'énormes difficultés à être entendu, à être audible et à être crédible sur cette question. Mais moi, ce que je note, c'est que quand même, sur la question migratoire, puisque c'est une des racines des problèmes que nous rencontrons, c'est qu'une majorité de Français, très large majorité de Français, sont favorables à une reprise en main très ferme de la politique migratoire. Quand on pose la question de savoir aux Français s'ils sont favorables, par exemple, à un référendum sur l'immigration, ce qui est d'ailleurs constitutionnellement pas possible aujourd'hui en l'État, vous avez plus de 70% des Français qui y sont favorables.
Ce qui est frappant... C'est très intéressant, mais là encore, le vrai sujet, moi, je ne sais pas si la famille de cette harceleuse française, elle n'est pas là depuis 2, 3, 4 générations en France. Je ne suis pas certain que ce soit des gens qui sont arrivés il y a 6 mois dans le pays.
L'intégration a été ratée de toute manière, donc c'est quand même un problème.
Mais on n'est pas sur des cas de nouveaux arrivants. A priori, c'est des gens qui sont dans un quartier de la Payade.
On dit qu'il y a un problème depuis les années 70, on dit qu'il y a un problème d'immigration.
Je crois qu'il faut insister sur le fait ce que vient de dire Arnaud Benedetti est totalement exact. Ça ne fait pas partie du logiciel d'Emmanuel Macron. Donc par capillarité, si on peut reprendre ce terme, ça ne fait pas partie de son gouvernement non plus. C'est-à-dire que les gens qui choisissent ne sont pas dans cette logique.
Alors, il a évolué quand même.
Alors oui, enfin il a évolué, mais souvenez-vous, aux dernières élections, la sécurité, la question du débat sur la sécurité avait été totalement édulcorée de sa campagne.
Je voudrais qu'on avance.
Une vision
parce que
du modèle français qui était une vision multiculturaliste,
mais totalement.
Une vision anglo-saxonne.
J'ai encore quelques extraits de cette maman à vous faire entendre. Et vraiment, je tiens à vous à ce qu'on entende tout ce qu'a dit cette maman aujourd'hui, et notamment sur le personnel du collège et leur réaction alors que cette jeune fille était harcelée, et qu'on rappelle également que le jour avant-hier de cette agression, une partie de la vie scolaire avait compris qu'il y avait des jeunes qui attendaient, qu'il y avait vraiment un risque qu'elle soit attaquée, et pourtant elle a été laissée libre de quitter le collège avant que tout soit sécurisé autour d'elle.
Un surveillant accompagne les élèves pour prendre le bus scolaire. Donc, il les dirige vers le bus scolaire. Ce jour-là, il n'y avait personne. Donc, du coup, les élèves sont sortis. Et puis, sa marraine, elle a été attrapée de force par les cheveux. Elle a été dirigée vers ce groupe. Elle a été jetée en pâture à ses bourreaux, quoi, tout simplement. Et j'en veux à l'établissement parce que je me dis qu'ils auraient pu, quand même, après deux appels, même au moment où j'ai rappelé pour dire j'arrive pas à joindre ma fille, je l'ai appelée une vingtaine de fois, elle me répond pas, je m'inquiète, je suis sur le chemin en train d'arriver, je m'inquiétais pas, je me suis dit ma fille elle est à l'intérieur du collège, donc que j'arrive à 16h05 ou à 16h20, c'est pareil, elle est à l'intérieur du collège, elle est en sécurité. En final, elle était déjà en train de se faire agresser.
L'islamisme teste l'école pour savoir à quel point, Régis, elle peut être imprégnée. Jusqu'ici, ça fonctionne plutôt bien.
Ça fonctionne plutôt bien. On est quand même dans l'école de la République.
Et puis elle a peur, hein, on l'a compris.
On est quand même dans l'école de la République. Si on reprend les fondamentaux, la laïcité, si on reprend le creuset républicain, il se fait à l'école. Donc, nous, toutes nos valeurs, finalement, on s'aperçoit, au jour le jour, sont mises en cause par un certain nombre d'individus dans les écoles. Mais je crois qu'il y a une gradation à laquelle on assiste. C'est-à-dire qu'à une époque, ce type de comportement pouvait arriver à la marge, mais qu'aujourd'hui, au sein même de l'école, on tente d'imposer des tenues vestimentaires. C'est plus simplement de dire refuser la baïa ou accepter la baïa à l'intérieur de l'établissement. On sait que souvent, d'ailleurs, un certain nombre de jeunes filles se déguisent pour rentrer et ensuite la mettent et viennent narguer les surveillants. Mais là, on a clairement l'idée d'une imposition, d'une tenue vestimentaire communautaire à une jeune fille, qui prouve quand même qu'il y a au sein de ces établissements un phénomène d'islamisation d'islamisation qui est plus rampant, mais qui dit voilà, c'est notre loi et tu dois y obéir et tu dois t'y conformer.
Je voudrais qu'on entende ce policier sur le quartier de la Payade et plus particulièrement cette communautarisation et ces quartiers à Montpellier. Écoutez ce qu'il en dit.
On sent que derrière, il y a peut-être d'autres motivations que simplement un simple différend. C'est pas nouveau, et sur la ville de Montpellier non plus, ce n'est pas nouveau. Il y a quelques réflexes communautaires qui s'activent au hasard de certaines périodes et qui sont en train de petit à petit de prendre de l'ampleur. Les autorités, qu'elles soient de l'éducation nationale et nous, police nationale, on est très au fait de ces phénomènes. Hein, un petit peu de, on va dire, sur fond un peu religieux et communautaire, qui s'amplifie, et c'est un glissement dangereux de la société qu'il va falloir vite freiner.
Et tout le monde à Montpellier connaît ce quartier, ce collège dans la Payade, dans lequel plus personne ne veut mettre ses enfants. D'ailleurs, il y a un moment où il va peut-être falloir faire quelque chose.
Oui, on s'enfonce. L'islamisme, en fait, ça n'arrive pas en premier. Il y a d'abord un phénomène, effectivement, d'immigration. Ensuite, il y a un phénomène communautaire avec la mosquée, avec une logique aussi où la réponse sociale peut être apportée justement parfois par des fondamentalistes. Ensuite, il y a cette sensation de se retrouver dans des collèges publics où finalement, cette jeune femme qui a agressé Samara, eh bien, se sent effectivement majoritaire. Hein. Pour elle, c'est son fait religieux qui doit s'imposer face à l'autre. Et donc, il y a cet aspect décomplexé. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant...
Et où est l'autorité?
Oui, mais
où est l'éducation? Où est le sursaut?
J'allais y venir. L'éducation. On nous dit toujours, ah oui, mais il faut que leurs parents éduquent. Mais sa mère est radicalisée. Parce que ce phénomène, il n'est pas nouveau. Et cette jeune femme qui est l'agresseuse, dans 10 ans, elle aura des enfants. Elle aura la charge d'éduquer de nouvelles potentielles agresseuses. C'est ça la réalité. Plus le temps va passer, plus il y aura une radicalisation qui est importante. D'abord, effectivement, avoir conscience que ce problème d'islamisme est lié à un problème majoritaire, à un problème migratoire, et surtout que les...
Mais avec ceux qui sont là et qui sont en règle ici, qu'est-ce qu'on fait ?
Il faut dresser des faits. Moi, vous parlez
tout à l'heure
d'Emmanuel Macron. Il est capable de dire, on est dans une logique géopolitique où la Russie veut influencer la France, etc. Qu'est-ce qui se passe depuis le 7 octobre ? Il y a une radicalisation de l'islam de façon générale. On le sait très bien que d'ailleurs, ces discours-là portent dans les banlieues. Le sud global, comme disait tout à l'heure Alexandre, justement, est beaucoup plus anti-occidental qu'aujourd'hui. Et cette jeune fille qui l'agresse aussi, dans le fond, elle ne connaît pas véritablement le Coran, etc. Il y a une chose qu'elle connaît. C'est ce qui se passe en Palestine. Et ça, il faut en avoir conscience. Donc aujourd'hui, en fait, cette question de l'islam modéré, même s'il y a des musulmans modérés, eh bien, c'est devenu une lubie. Donc il faut absolument aussi, que lorsqu'on est dans une logique d'immigration choisie, partir du principe que faire venir des populations aujourd'hui qui viennent de ces pays qui nous haïssent de plus en plus, hein, on parlait de Kémy Séba récemment, etc., on ne peut plus les accepter parce que, déjà que ça existait comme problème avant, mais depuis 7 octobre, c'est encore pire.
Dernier extrait de cette maman, et puis on fera là encore un dernier tour de table. Elle savait que sa fille était harcelée, embêtée, moquée sur les réseaux sociaux dans son établissement depuis de longs mois, presque 2 ans, et elle s'est toujours dit que porter plainte, ça ne servait à rien.
Que les établissements ils soient impuissants s'il n'y a pas de dépôt de plainte. Si dépôt de plainte, il faut des preuves, il faut des... J'avais contacté la plateforme qui m'a dit, voilà, le compte est supprimé, on ne peut plus agir, il n'y a plus possibilité de récupérer d'adresse IP, donc la plainte au panier, quoi. Enfin, il faut dire ce qu'il en est. Donc c'est un cercle vicieux. Ça veut dire que vous déposez plainte, il n'y a pas de preuves, c'est classé sans suite et l'établissement ne peut pas intervenir parce que au bénéfice du doute, là, ils l'ont sanctionné parce que l'élève, elle a avoué, mais et elle n'aurait pas avoué, peut-être elle n'aurait même pas sanctionnée, elle aurait rien eu. Et ça, il faut changer ça. Il faut que ça soit plus rapide. J'aurais aimé déposer plainte, mais je sais que ça aurait servi à rien.
Tentative de meurtre. La question donc est plus de savoir si une harceleuse doit être exclue 2-3 jours de son établissement, qu'elle ait 13, 14 ou 15 ans. Là, on est sur du pénal. Il faut des structures judiciaires adaptées et sortir ces gamins de l'environnement scolaire pour un endroit plus adapté. Un point, c'est tout.
Ben oui, il faut aller plus loin parce qu'en ce moment, on voit qu'on est même... On n'est même pas, en fait, à admettre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on parle déjà de cette... Quand elle dit qu'il y a eu un appel au viol, hein, je prends les propos de la mère, ça s'est avéré de cette façon. Écoutez, on ne parle pas de colibet. Alors, si ça a été une expulsion de, je pense, c'est 2 jours ou quelque chose comme ça...
Oui, elle a eu 2 jours d'exclusion.
D'exclusion pour un appel au viol.
Pour quel résultat?
Un appel au viol. Je sais. Et ensuite, on rentre les personnes à la maison. Je veux dire, même pour cette jeune femme... Qui avait fait, donc, pour cette histoire d'appel au viol, pour ces personnes-là qui sont impliquées, on s'entend que si on n'arrête pas dès cette première incartade, qui n'est pas juste une incartade, pour moi, c'est pratiquement, on bascule dans un côté presque pénal. C'est-à-dire, c'est pas banal. Il y a vraiment une menace à la sécurité.
On est dans le pénal, on est dedans.
Oui, c'est ça. Et je veux dire, on sait dans quel environnement on est en ce moment. On sait que ces messages qui sont captés, qui peuvent être captés par toutes sortes de personnes mal intentionnées, il peut avoir des effets, c'est très grave. On l'a vu aussi dans le cas, par exemple, pour ce qui s'est passé avec Samuel Paty. On voit qu'il y a des dangers. Moi, je trouve que d'avoir laissé aller les choses, oui, il y a une responsabilité. Ça montre à quel point aussi on est le fameux pas de vague. Je pense qu'il faut arrêter de dire on est en plein dedans, là. On est dans l'océan. C'est pas juste le pas de vague, on est dans l'océan littéralement. Donc là-dessus, oui, il y a eu des lacunes. Et ensuite, je pense qu'on l'a exprimé ce soir, le problème beaucoup plus large. On parle de harcèlement, mais il y a quelque chose quand même de plus profond. Il y a cet islamisme plus largement. On l'a vu aussi avec le proviseur qui a dû finalement se retirer à quelques mois de sa retraite parce qu'il avait été menacé de mort, parce qu'il essayait tout simplement de faire son travail. On l'a vu avec l'affaire Samuel Paty, avec Dominique Bernard.
Et on risque de le revoir, c'est ça qui est terrible.
Sont vraiment pressurisés aussi. Et peut-être juste en terminant, on parlait de la classe politique. Je pense qu'il faut faire attention aussi du côté d'une certaine gauche radicale où on va préconiser, par exemple, cette idéologie indigéniste ou racialisme, où on enferme les gens dans leur communauté. On s'éloigne de cet universalisme à la française, de cette laïcité, et je pense que ça cause aussi un certain problème. On ne travaille pas, justement, à créer ce commun.
En quelques secondes, Éric, oui, c'est ce que je disais il y a un instant, et on va conclure là-dessus. Tant qu'il n'y aura pas d'endroit où mettre ses enfants ultra-violents, ils seront toujours à l'école avec cette capacité à gérer ces situations.
Oui, et imaginez une chose. Imaginez que cette mère n'ait pas témoigné. Qu'est-ce qu'on aurait entendu des responsables politiques ? On aurait dit que finalement, c'est une forme de rixe dans une école, que c'est un problème des réseaux sociaux. Hein, on a entendu Emmanuel Macron parler de ça pendant les émeutes.
Les écrans.
C'est ça, à chaque fois, la problématique. Et quand cette mère parle, on dit « Ah oui, mais il faut quand même attendre la justice ». Et quand elle ne parle pas, on va dire « Oui, mais quand même, il faudra entendre l'opinion aussi des parents, des concernés ». C'est véritablement la problématique aujourd'hui qu'on a.
Quand je vous disais que ça risque de se répéter en parallèle, on a appris ce soir qu'à Viry-Châtillon, en région parisienne, un élève de 3e de 15 ans a été agressé en sortant de son cours de musique par 3 ou 4 personnes cagoulées qui l'ont roué de coups. Il a été retrouvé par les pompiers en urgence absolue. Pour le moment, aucune interpellation. Je voudrais que vous écoutiez le maire de Viry-Châtillon qui décrit l'état dans lequel ce jeune a été retrouvé ce soir.
Ils l'ont laissé pour mort. Il était sous respirateur. Moi, je ne suis pas entré, bien évidemment, dans l'ambulance. Hein. C'est le travail des pompiers et du SAMU de pouvoir justement faire ça dans les meilleures conditions possibles. Mais il était a priori inconscient. En tout cas, lorsqu'ils l'ont découvert, il n'avait pas toutes ses facultés. Il était, il parlait pas ou il ne réagissait pas tellement. Pour moi, c'est pas des voyous. Ils ont essayé de le tuer. Alors, je ne sais pas s'ils voulaient le tuer, s'ils ne voulaient pas le tuer, mais quand on laisse pour mort un jeune ado de 15 ans comme ça, qu'on lui brise la vie, on n'a rien dans le crâne. Bien là, on mérite les peines les plus lourdes. C'est pas possible qu'on puisse continuer de se dire. On prend ça et puis on attend le prochain. C'est pas possible.
Alors, évidemment, on va pas faire l'histoire avant l'histoire puisqu'on n'a aucun élément. On n'est pas du tout dans le cadre, en tout cas pour le moment, de cette histoire terrible de Samara dont on a longuement parlé. On sait que dans ce département d'Île-de-France, l'Essonne, il y a beaucoup de rixes entre des jeunes de différents collèges, de différents lycées. Donc la première idée qui nous vient est celle-ci, quand bien même on a pour le moment la seule information, c'est que ce gamin, il a 15 ans, il est victime de l'ultra-violence de cette jeunesse et il est entre la vie et la mort dans un hôpital. Alexandre,
il a été transféré à Necker. Donc ça veut dire
et transféré à Necker, l'hôpital parisien des enfants malades, très spécialisé donc pour traiter les plus jeunes d'entre nous.
Rappelons qu'à Viry-Châtillon, c'était aussi il y a quelques années, des policiers avaient été brûlés vifs. Je crois qu'ils s'en étaient sortis, mais brûlés au troisième degré. Et je crois qu'on avait eu du mal à identifier qui avait fait quoi dans l'agression et que les auteurs avaient pris des peines de prison assez faibles. Donc je rejoins ce que dit ce maire pour ce qui est sont des tentatives de meurtre en fait et pas des bagarres entre adolescents.
C'est ça.
Il faut des peines.
C'est qu'avant maximales. C'était des bagarres entre adolescents parce que des rixes entre quartiers, des collèges qui s'aiment
pas.
C'est
pas ça.
On connaît.
Il y a un degré de violence qui est pareil avec l'affaire Samara, où là il y avait la dimension idéologique et islamiste dans l'affaire Samara.
Mais ce qui est frappant, c'était la volonté
de tuer. Ça a été
c'est encore une tentative de meurtre.
Les témoignages étaient glaçants parce qu'ils l'ont frappé jusqu'à ce qu'elle gisse sur le sol avec le crâne en sang. Donc c'est pas juste une claque qui tourne mal, c'est des gens qui ont la volonté de tuer aujourd'hui. Donc c'est très
intéressant. Et aucune empathie, aucune. Aucun sentiment qu'on peut aller vers quelque chose d'irréversible et total.
Forme de déshumanisation de l'autre qui est très inquiétant.
Voilà pour ces deux affaires et pour Viry-Châtillon, on tentera évidemment d'y voir plus clair et notamment chez Romain Desarbres dès demain matin, on aura, je l'espère, plus d'éléments pour comprendre les raisons de ce nouvel acte d'ultra-violence qui laisse un gamin entre la vie et la mort à l'hôpital en région parisienne ce soir. Quasiment 23h30, une petite minute pour rappeler l'actualité avec Maureen Vidal. On parle de ces opérations place nette 15 jours après. Où est-ce qu'on en est au quartier de la Castellane ? Eh bien, ça va être intéressant de se poser la question et d'aller voir ça. Et puis, Aya Nakamura adoubée de nouveau par Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est le programme de ce dernier quart d'heure. A tout de suite, Maureen.
« 20 ans de réclusion pour le principal accusé dans le procès de l'attentat de Strasbourg. Après 5 semaines d'audience, la cour d'assises de Paris a rendu son verdict. Ami proche du terroriste Chérif Chekat qui a assassiné 5 personnes et blessé 11 autres en décembre 2018. Le parquet reproche notamment à Audrey M d'avoir joué un rôle majeur pour aider l'assaillant à se procurer le pistolet utilisé pendant la tuerie. La France condamnée pour l'accueil des harkis. La Cour européenne des droits de l'homme dénonce des conditions de vie incompatibles avec le respect de la dignité humaine. Les harkis ont été accueillis dans des camps où ils ont passé plusieurs années après leur retour d'Algérie entre 1960 et 70. Enfin, l'Assemblée nationale adopte une loi pour limiter la diffusion des polluants éternels. Toutefois, les ustensiles de cuisine ne sont pas concernés après une forte mobilisation cette semaine des fabricants. Le texte prévoit d'interdire à partir du 1er janvier 2026 la fabrication de tout produit cosmétique ou textile contenant des polluants éternels.
Merci beaucoup Maureen Vidal pour l'essentiel. L'opération PlaceNet XXL se poursuit dans les Bouches-du-Rhône depuis le 18 mars. On note ces chiffres, 627 personnes interpellées, 19 armes saisies, 450 kilos de cannabis, 2,7 kg de cocaïne, plus d'1 600 000 euros saisis. Cette opération avait été lancée dans la cité de la Castellane, le plan stup le plus important de la ville de Marseille. Emmanuel Macron y avait également fait une visite surprise 15 jours après. Où en sommes-nous ? Stéphanie Rouquier a enquêté sur place.
Depuis des mois, cette entrée de la cité de la Castellane était impraticable.
C'était une barricade ici.
C'était une barricade ?
Oui, oui.
C'est-à-dire installée par les trafiquants ?
Ah oui, oui. Comme ça, personne n'est rentré ici, personne n'est sort. Il faut tout raser, nous ont dit.
Et du boulot ?
Ah oui, c'est pas fini encore. Hein.
Plus de 2 semaines après son lancement dans les Bouches-du-Rhône, l'opération PlaceNet XXL se poursuit dans la cité de la Castellane. Des policiers sont présents 24 heures sur 24. Les trafics sont à l'arrêt. Les encombrants ont été enlevés, les tags effacés. Alors les habitants revivent.
Oui, c'est mieux. Et parce que le quartier, il est dangereux, tu vois. Non, c'est normal qu'ils surveillent, tu vois.
C'est mieux, il n'y a plus de réseau. Genre, on n'entend plus la ra et tout. C'est mieux que d'habitude.
Ah oui, les gens sont plus dehors, ouais. Même les enfants, le soir, ils sont dehors.
Nadia vit ici depuis 32 ans. Les trafics, elle les subissait juste devant sa porte.
On les voit vraiment devant nous. Ils vendent, ils cachent, ils coupent, tout ça. L'argent devant nous, plein d'argent. Plein d'argent. Quand je vous dis des pleins d'argent, c'est des sacs, c'est des cabas. Maintenant, j'ai parlé avec la police, j'ai dit que j'aimerais bien que vous êtes là tout le temps. Ah, c'est le plus calme et on dort très très bien et c'est propre.
L'opération PlaceNet XXL va se poursuivre encore plusieurs jours. Mais de nombreux habitants sont déjà préoccupés. Ils craignent le retour rapide des trafics.
Preuve que quand on veut, on peut. Thomas Bonnet, coup d'épée dans l'eau ou résultat durable ? C'est la question que se posent, je pense, surtout les habitants de ce quartier.
J'ai surtout noté la phrase de la dame qu'on entend à la fin. J'aimerais bien que la police soit là tout le temps. Et en fait, je pense que ça résume assez bien, l'opération PlaceNet. C'est-à-dire que bon, ça peut être très efficace de manière très ponctuelle. En fait, ce qu'il faudrait, c'est des moyens de manière permanente sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'on en a les capacités ? J'en suis pas sûr, mais on voit qu'il peut y avoir des effets concrets si on met un certain nombre de moyens.
En tout cas, la preuve que les trafiquants ne rient pas tant que cela de voir ces opérations. Il y a eu ces images qu'on a vues diffusées par les forces de police sur place hier soir. Le commissariat Félix Piat, qui est au cœur de Marseille, a été attaqué, notamment à coups de cocktails Molotov, des voitures de police également incendiées. On va voir ces photos. Merci beaucoup. Les voilà. La preuve que les trafiquants sont quand même déstabilisés et le font savoir aux forces de C'est un commissariat qui est particulier, hein, parce qu'il est au cœur du 3e arrondissement, comme le rappelait Rudy Mana aujourd'hui, dans une cité, dans un quartier.
C'est incroyable, parce qu'on a connu un temps où les voyous et trafiquants avaient peur de s'en prendre à des policiers.
Ah bah oui, ils sont déstabilisés. Ça, c'était
en fait,
avant. Hein.
Ils imposent quand même leur loi en allant brûler des voitures de police dans leur commissariat. Donc, ça dit aussi la dimension que les choses ont prise. Pour répondre à ce qui a été dit, est-ce que nous avons les moyens ou pas ? Alain Bauer, qui est spécialiste de sécurité, dit qu'effectivement, il faut faire des opérations PlaceNet, mais rester beaucoup plus longtemps, et qu'au bout d'un mois, on assèche la production, mais que les pouvoirs publics ne veulent pas le faire, parce que c'est aussi une économie parallèle et qui craignent, dans ce cas-là, un risque d'émeute.
Oui, mais la preuve quand même, et ce reportage, je trouve qu'il est très important, il est très important et très intéressant, parce qu'on a la preuve également, bien sûr, si tant est qu'on l'ignorait, que ces quartiers sont loin d'être intégralement en partition avec la nation. situation et que la plupart des gens,
qui sont, otages,
sont des victimes et aimeraient que la police soit là et vive dans la quiétude.
On voit très bien, police égale le calme, visiblement. C'est ce que dit cette personne.
C'est plutôt rassurant d'entendre ces gens d'ailleurs.
Simplement, oui, et c'est rassurant aussi de voir quelque part que s'ils s'acharnent sur le commissariat, c'est que oui, le business a été perturbé. Mais souvenez-vous d'ailleurs, quand il y a eu la première opération Place Nette à Marseille, immédiatement après, les dealers avaient fait une communication en expliquant que le désagrément, en s'excusant auprès de leurs clients, oui. du désagrément, en disant on revient, demain tout revient. Voilà. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on appelle ça aujourd'hui opération Place Nette. L'année dernière, ça s'appelait la CRS8, et que finalement, ça change de nom, mais ça dure pas assez. Ça dure pas assez face à un business en face qui est monstrueux.
Mais vous n'avez rien à faire.
Non, il faut pas rien faire. Évidemment, il faut perturber. Mais ça montre quoi? Ce ne sont que des petits coups d'épée.
On des moyens
voilà. Aussi, ouais. Et que la police n'a pas les moyens que les dealers ont en face.
Son de Rudy Mana, un extrait sonore de Rudy Mana du syndicat de police Alliance Sud. Quelles conséquences sur le long terme? C'est ça, évidemment, qui intéresse en premier lieu les populations sur place. Écoutez-le.
J'aimerais vous dire que ça aura des conséquences à long terme, mais franchement, je ne suis pas sûr que ça aura des conséquences à long terme. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont avoir du mal à se restructurer. On est en train de casser des murs où ils avaient créé des barricades. On est en train de remettre un peu d'ordre dans cette cité. Donc il va falloir qu'ils réinstallent tout ça. Ça va prendre un certain temps. Maintenant, vous dire que sur le long terme, on a réussi à casser tous les trafics de stupes marseillais, non, je ne peux pas vous dire ça parce que ça serait un mensonge de ma part. Ce qui est sûr, c'est qu'on leur a fait mal. Ce qui est sûr, c'est qu'on est encore présent tous les jours. Et croyez-moi qu'ils n'aiment pas du tout ça. Et ce qui est sûr, c'est qu'au moins pendant ce laps de temps, il y a les habitants de ces quartiers qui sont heureux de vivre paisiblement dans leur quartier.
Ce qu'on attend, donc, c'est surtout la suite de ces opérations Place Nette et la réponse que pourrait rendre aussi la justice sur ces 627 personnes interpellées. Pourquoi pas aussi?
Oui, mais vous savez, Dupond-Moretti, on n'en parle jamais. Il n'est jamais mis en avant. Et la réponse pénale dont on parle tant, il n'y en a qu'un qui n'est pas au courant, c'est Éric Dupond-Moretti qui, pour le rappeler, le premier acte qu'il avait posé en tant que ministre de la Justice, c'est d'aller visiter les...
On lui rappelle assez souvent.
Il était applaudi. Mais vous savez, il ne faut pas se tromper sur cette opération. Elle n'est pas là pour mettre fin au trafic de drogue. Elle est là simplement pour envoyer un message en disant, vous savez, on peut vous embêter. Pourquoi? Parce que ce qui dérange d'abord l'État, c'est les règlements de compte. C'est cette question-là, c'est de leur montrer, vous savez, on ne va peut-être pas en fait vous tuer, hein, mais on va vous faire un peu mal, vous allez perdre 5%, 10% de votre chiffre d'affaires. Et étant donné qu'en face, c'est des businessmen, eh bien, ils sont capables de se dire, bon, ben, on va arrêter quand même de se tirer dessus et on va mieux gérer notre business. C'est ça la réalité. Et dans le fond, lorsqu'il y a cette attaque de la police qui est assez ciblée, lorsqu'ils envoient un cocktail Molotov, c'est aussi la façon pour les dealers de dire, vous savez, nous aussi, on peut répliquer. Ne l'oubliez pas. Et Alexandre en parlait tout à l'heure d'Alain Bauer qui explique qu'en fait, si on veut demain, dans les faits, mettre fin au trafic de drogue, il faut assumer qu'au bout d'un mois véritablement de blocage, eh bien derrière, il y aura des émeutes. Donc si on ne change pas le cadre, on se dit, mais soit l'objectif, c'est l'achat de la paix sociale, dans ce cas-là, Gérald Darmanin, effectivement, fait la bonne chose, soit c'est de mettre fin au trafic de drogue, mais il faudra assumer une guerre.
Ce qui sera vraiment intéressant,
sera une guerre interne.
Aussi, pourquoi pas, et ce serait vraiment la solution extrême, mais ce qui sera intéressant, c'est cette opération à Marseille, elle a démarré le 18 mars 2024, il faut qu'on se donne rendez-vous le 18 mars 2025 pour voir où en sera le quartier de la Castellane un an après. Et là, en effet, on pourra faire le bilan des conséquences
le
de long
fait
terme.
Avec les différents plans sur Marseille à chaque fois.
Oui, bah là, et on pardon revient, d'essayer revient, d'avoir un peu de.
Il y a eu combien de plans pour rendre Marseille salubre et combien?
Tout autre sujet pour les 5 à 10 dernières minutes de l'émission. Je vous le disais tout à l'heure, le président de la République a inauguré donc aujourd'hui le centre aquatique olympique qui accueillera les épreuves de plongeon, de natation artistique et le tournoi préliminaire de water polo, notamment pendant les Jeux. Donc, il a évoqué beaucoup de sujets et évidemment, il a été interrogé sur la chanteuse Aya Nakamura, qui est pressentie, vous le savez, pour participer à la cérémonie d'ouverture, visée par des attaques, certaines et même beaucoup racistes. Elle a tout à fait sa place pour représenter la France à la cérémonie d'ouverture. Emmanuel Macron.
Écoutez, moi, je constate une chose, c'est... une artiste qui est, je crois, pour parler en bon français, la plus streamée parmi les artistes francophones. Elle est partagée, elle parle à bon nombre de nos compatriotes. Et je pense qu'elle a tout à fait sa place dans une cérémonie d'ouverture ou de clôture des Jeux. Je ne dévoilerai pas ici les détails. Mais si elle fait partie avec d'autres artistes de cette cérémonie, je pense que c'est une bonne chose. Et parce que ces Jeux et ces cérémonies doivent nous ressembler. Et donc, elle participe justement aussi de la culture française, de la chanson française.
Qui veut réagir ? Aya Nakamura, c'est vrai que cette affaire ne suscite que des polémiques politiques et des dérapages haineux depuis plus d'un mois sur les réseaux sociaux.
Oui, déjà, on peut dire que c'est la première fois qu'Emmanuel Macron se positionne publiquement, parce que depuis le début, tout ça.
Il l'a invité à l'Élysée pour lui proposer, donc il s'est positionné d'une certaine façon.
Là, c'était rapporté par la presse de manière
discrète.
C'est la première fois qu'il en parle publiquement. Et on voit que ses arguments sont recevables. Dire que c'est l'artiste francophone la plus streamée, la plus écoutée au monde, bon, ça fait sens quand on va accueillir le monde entier pour un événement majeur. Je ne peux pas m'empêcher de penser que politiquement, il y a aussi un petit coup qui a été fait par Emmanuel Macron pour cliver, faire du débat et peut-être servir de révélateur.
Il y a d'autres matières à débat qu'une chanteuse populaire.
Mais je ne vois pas du tout à quoi ça lui sert, là en l'occurrence, parce que je ne vois pas l'intérêt de cliver sur cette question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez... Moi, ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est l'usage que fait Emmanuel Macron des Jeux Olympiques plus largement. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi je pense que les Jeux Olympiques pour Emmanuel Macron, au-delà du fait qu'il espère que ça va bien se passer, que ça va avoir un impact économique, ce qui reste à démontrer d'ailleurs au demeurant, c'est qu'il a besoin des Jeux Olympiques parce qu'il est dans une séquence politique aussi extrêmement difficile. Et c'est la raison aussi pour laquelle il communique très fortement là-dessus aujourd'hui. Il a une séquence très difficile parce qu'il a des élections européennes.
Vous répondez à une question aussi. Hein.
Il a des élections européennes qui s'annoncent très mal, déjà, et surtout...
Je ne vous parle pas des derniers sondages, je ne voudrais pas, choquer l'Élysée.
Il a une séquence encore plus difficile, à mon sens. C'est la séquence parlementaire qui s'annonce sur le budget.
Ouais.
Donc aujourd'hui, finalement, de venir parler de cette chanteuse et de venir parler des Jeux Olympiques, ça a permis, un, de faire diversion, et deux, d'espérer peut-être qu'après les européennes, on puisse franchir le cap difficile des européennes avec les Jeux Olympiques. Mais enfin, je pense que tout ça, c'est de la communication.
Régis et Eric, avant de conclure cette émission, alors si Karima veut aussi dire un mot, très court les amis, parce que je voudrais vous montrer une dernière séquence. On peut ne pas aimer sa musique, mais c'est vrai que ça a dérivé sur quelque chose de...
C'est l'idée d'allumer des contre-feux à chaque fois. Il l'a fait aujourd'hui sur l'histoire du Rwanda, c'était absolument pas nécessaire. C'était en effet l'anniversaire.
Oui, il a rappelé que la France, aurait pu agir pour empêcher
mais qu'elle n'en a pas eu la volonté. Voilà. Vous entendu accusant, revenant, recréant des polémiques. Il le fait à chaque fois et on peut même soupçonner que certains de ses propos vis-à-vis de la Russie sont aussi des contre-feux pour oublier la politique intérieure.
Pas très malin, si c'est le cas.
Ah ben non, mais...
c'est une vieille stratégie. Hein.
Voilà, quand on est à quelques 13 ou 14% derrière la liste de Jordan Bardella pour la liste européenne.
D'ailleurs, j'en profite pour rappeler ce rendez-vous lundi, 21h, hein, sur l'antenne de CNews. Débat dans le cadre de ces élections européennes à venir entre Mme Hayé, candidate Renaissance, et Marion Maréchal, candidate Reconquête. Concluons sur Aya Nakamura. Elle a du succès, énormément de succès. Vous pouvez, encore une fois, je l'ai dit il y a deux secondes, ne pas aimer sa musique, mais est-ce que cette chanteuse doit chanter aux Jeux Olympiques, selon vous, Eric ?
Moi, je pense que Emmanuel Macron, s'il fait ça, c'est d'abord parce que ce qui compte pour lui, alors qu'il ne va pas se représenter en 2027, c'est qu'il est toujours fasciné par l'étranger. Et notamment, il est très intéressé par ce que peuvent penser de lui les pays anglo-saxons. On se rappelle qu'en 2018-2019, au moment aussi de la loi séparatiste, ça l'avait énormément blessé que les Américains disent qu'en fait, c'était presque quelqu'un d'extrême droite. Il est en train de préparer sa stature à l'international. Il aura moins de 50 ans en 2027. On sait aussi, c'est les offres qui circulent, etc., dans son entourage, qu'il vise des postes internationaux. Les Jeux Olympiques, c'est la dernière fois où il sera mis en avant. Et moi, il y a juste une phrase qui m'a interloqué. Je ne suis pas philosophe, j'aimerais juste qu'on réfléchisse. Il dit « Il faut justement que cette cérémonie ressemble aux Français ». Donc oui, il considère qu'Aya Nakamura aujourd'hui ressemble aux Français.
Mais elle ressemble à une partie de notre jeunesse.
C'est vrai, mais lorsque en fait on l'exprime, lorsque quelqu'un comme moi ou lorsque d'autres personnes expriment cela, on va nous dire « Mais vous êtes en train d'insigner quoi en fait ?» Et ça c'est intéressant je trouve, cette réflexion.
Réponse le 26 juillet, on verra si Jaja et l'hymne à l'amour ne font qu'un sur les bords de Seine. Je ne sais pas où ça se passera d'ailleurs ce concert, s'il a lieu. Je vais vous faire réagir, il nous reste 2 minutes, je vais vous faire réagir à l'image cocasse du jour. Je ne pouvais pas vous quitter sans vous la montrer. C'était donc lors de l'inauguration de ce centre aquatique des prochains Jeux de Paris 2024. Emmanuel Macron est là, tous les officiels, vous avez des grands plongeurs, athlètes olympiques pour certains champions du monde et lui en l'occurrence vice-champion du monde qui veulent nous montrer comment fonctionne ce petit plongeoir. Voilà le résultat.
C'est méchant.
Ouh la vache.
Voilà, on la remet. On la remet un coup. Juste un petit coup. Olé. Voilà. Il s'appelle Alexis Gendard. On va pas se moquer. On rit avec lui et je dis avec lui parce que ce monsieur est très sympathique. Il a beaucoup d'humour. Ouais. Regardez la séquence qu'il a postée sur les réseaux sociaux. Alexis Gendard, vice-champion du monde et évidemment qualifié pour les Jeux de Paris.
Bon allez, il est l'heure. Je prends la parole parce que avec ce qui s'est passé, je crois que vous avez envie d'un petit débrief. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé ce matin. Déjà, je tiens à rassurer tout le monde, tout va bien, je me suis pas fait mal, il y avait un peu de sang, mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas d'aller m'entraîner cet après-midi. Sachez une chose, c'est que j'ai glissé, non j'ai pas glissé, mais j'ai une petite faiblesse sur la jambe, ça m'a fait chuter, j'ai chuté devant le président, j'ai chuté devant la France entière, je reçois des messages, c'est pas possible. Puis amusez-vous, hein, c'est le moment de me vanner parce que là franchement je mérite de ouf.
Il est très sympa Alexandre Devecchio puisqu'il ne dit pas que c'est vous qui faisiez la doublure sur le plongeoir cet après-midi. On vous a tous reconnus. L'important, disait l'autre, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
J'espère que ce sera pas un symbole de ces JO, il a du panache et de l'humour. Ouais.
Alexis Gendard. Il vaut mieux chuter ce matin devant le président de la République. Je ne sais pas quand sera l'épreuve de plongeon olympique, mais
s'il gagne, s'il la remporte, ça sera encore plus.
Et on lui remontrera cette image. Vous voyez que ça vous apportait.
C'est comme au théâtre, vous savez, on dit au théâtre, oui. Quand vous faites la générale et que ça se passe très très mal, on dit en général après ça se passe super bien. Alors,
écoutez, ce sera
l'apothéose.
C'est tout le mal qu'on lui souhaite. On se la met une dernière fois, pas pour se moquer, mais parce qu'on a besoin d'avoir un peu le sourire. Olé ! Merci Alexandre. On vous montrera comment on s'élance d'un plongeoir. Merci à toutes les équipes de CNews, Technique, de la rédaction, notamment bien sûr Martin Mazur, Céline Génaud, Coralie Deleplace qu'on prépare à cette émission. On est jeudi soir, ce qui signifie que le week-end commence demain avec Olivier de Kerenfleck et en attendant Olivier, c'est l'édition de la nuit d'abord. Simon Guilin, bonne nuit à tous et à lundi.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.